découvrir les grands pianistes de toutes les générations et de tous les pays qui constituent le patrimoine des interprètes.
Portrait de famille, une émission France Musique à retrouver sur le site et l'appli Radio France.
France Musique, relax, Lionel Esparza.
Bonjour à tous, nous sommes mercredi donc, nous jouons aujourd'hui au petit poucet. Un personnage mystère, des indices déposés subrepticement sous forme de mots-clés ou de musique. Vos réponses sur le site de France Musique, page relax, bouton nous contacter. 5 gagnants, 2 disques chacun, solution sur les coups de 15h55. Et voilà, ce sera plié. 16h, en disque de légende, Britten dirige ses variations sur un thème de Frank Bridge. Mais tout de suite, nous jouons au petit poucet. Sous vos applaudissements.
Thank you.
Camp and Circumstances, l'opus 39, avec cette marche en ré majeur d'Edward Elgar lors des Proms de 1969. Tout un symbole de l'esprit et de la grandeur, de l'esprit british. C'était Colin Davis qui était ici à la tête de l'orchestre symphonique de la BBC, à l'époque où il dirigeait cet orchestre de radio et de télévision fameux. Il n'y resta pas longtemps d'ailleurs, il fut remplacé peu après par Pierre Boulez. Enfin ça c'est une autre histoire. Le Crucifixus, a priori, est un moment particulièrement dramatique. Il a été crucifié pour nous, sous Ponce Pilate. Que ce soit chez Lotti ou chez Caldara, les mises en musique relèvent toujours du grand tragique, avec une exception, le seul Crucifixus en majeur. Il n'est pas serein, hein, c'est pas de la crucifixion heureuse non plus, mais enfin, ça semble apaisé. On le doit à Rossini dans sa petite messe solennelle. Crucifixus de la petite messe solennelle de Rossini par Daniela Dessi, Riccardo Chailly et l'orchestre du Teatro Comunale de Bologne. Drame muet, voilà le sous-titre de la tragédie de Salomé de Florent Schmitt, composée en 1907, une réponse chorégraphique et française à la Salomé de Richard Strauss qui avait fait sensation à Paris quelques mois plus tôt. Florent Schmitt avait une attirance particulière pour l'Orient tel qu'on le rêvait à l'époque, notamment la Turquie, et puis aussi pour les antiquités lointaines. Salomé était donc un sujet pour lui. Il y mit tout son cœur et acheva le ballet en 2 mois. En voici un épisode sensuel et torride, mais inquiétant aussi. Il s'agit de la danse des serpents. On ne sait pas de quels serpents il s'agit, s'ils sont venimeux ou constricteurs. Mais ils ne nous veulent pas du bien, ça c'est certain. La danse des serpents, extrait de la tragédie de Salomé de Florent Schmitt, c'était Alain Altinoglu et l'orchestre symphonique de la radio de Francfort.
France Musique, relax, Lionel Esparza.
Tiens, aucun gagnant encore dans notre petit poussé. Et peu de réponses. Ah ah, serais-je en passe de vous coincer avec notre jeu du jour? Ah, je reconnais que les indices sont discrets, voire même un peu subliminaux. Mais enfin, vous me réclamez tout le temps que ce soit de plus en plus difficile. Alors, comme je tiens à vous conserver à l'écoute le plus longtemps possible, il va y avoir des indices un petit peu reportés au fil de cette heure. Mais on va y venir, ne vous inquiétez pas. À suivre, un grand moment de méditation spirituelle, existentielle même, tous les derniers quatuors de Beethoven porte à cela, mais le 14e en particulier, et son premier mouvement surtout, comme l'ouverture d'une sombre et profonde réflexion sur le sens de la vie.
Thank you.
C'était l'ouverture du 14e quatuor de Beethoven par le quatuor Artemis. On sait que Nino Rota fut un récupérateur sémillant de sa propre musique, le compositeur de musique savante, dialoguant en permanence en lui avec le compositeur de musique de film. Exemple le plus célèbre avec les pièces écrites pour le Casanova de Federico Fellini, reprise note à note de morceaux pour le piano sur le nom de Bach, B-A-C-H, les notes du nom du plus sévère des compositeurs pour illustrer les affolements d'un oiseau mécanique devant les exploits sexuels d'un don Juan de pacotille. Alors ça c'est de la parodie au second degré, de l'humour brut, un peu absurde même. Ici donc la version originale, la valse du cirque, Circus Walzer, sous les doigts volants d'Éric Lesage. Circus Walzer, la première des valses sur le nom de Bach de Nino Rota, a été jouée par Éric Lesage. Les œuvres collectives sont décidément assez rares dans l'histoire de la musique. On peut nommer tout de même les Mariés de la Tour Eiffel. À l'origine, c'est une commande de Rolf de Maré à Jean Cocteau et Georges Auric. Il se trouve qu'Auric n'avait pas le temps d'écrire. Il demanda donc à ses compagnons du groupe des Six de l'aider. Bon, tous ne purent assumer cette glorieuse proposition, mais retenons ceci, un groupe des Six pour une œuvre collective. Voilà ce qu'est, ce que sont les Mariés de la Tour Eiffel, représentés par les ballets suédois à Paris en 1921. En voici quatre extraits signés Poulenc, Millau, Taillefer et Honegger. quelques extraits des Mariés de la Tour Eiffel, collectif. Oui, je ne vais pas citer à nouveau tous les compositeurs qui étaient dedans. Ça tient pour le groupe Geoffrey Simon avec l'orchestre Philharmonia.
France Musique, relax, Lionel Esparza.
Ah, je crois que je vous ai fait là le petit poussé le plus compliqué de l'histoire du genre. Hein. Seulement une vingtaine de bonnes réponses à l'heure qu'il est, on n'a jamais eu aussi peu. Alors quand même, petite indication supplémentaire, le petit poussé, 9 fois sur 10, c'est un personnage. C'est le principe d'ailleurs. Mais souvenez-vous qu'on a pu aussi avoir des objets, des choses, comme le bibendum Michelin ou le Titanic. Je vous dis pas que c'est une chose, hein. Disons qu'il faut élargir la perspective, faut ouvrir son esprit. Et merci pour les petits messages que certains glissent avec votre réponse. Vous me faites bien rire, soit dit en passant pour certains d'entre eux. Oh, et si on allait jazzer manouche, ce serait Guiret, tiens, ça changerait. Django Reinhardt, 1947, avec Hubert Rostin à la clarinette. Une version légère, presque minimaliste, d'Aquarella do Brasil, d'Arribarosso. Enfin, Brasil, quoi. Brasil, c'était Django Reinhardt et ses troupes en 1947. Wanda Landowska fut la prêtresse de la musique ancienne à ses origines. Au début du XXe siècle, il fallait défendre le clavecin. Elle le fait avec beaucoup de tempérament, parfois même de véhémence. Elle pouvait être charmante au naturel, mais si vous remettiez en cause l'instrument, sa légitimité ou les musiciens, elle devenait intraitable, cassante, voire même insupportable. C'était plus la gentille dame qu'on connaissait, c'était alors un poison nommé Wanda. Enfin, à part ça, elle était charmante, Landowska. Thank you. Le prélude de la deuxième suite anglaise de Jean-Sébastien Bach sous les doigts de Wanda Landowska. Et un petit message en passant à un auditeur, Hervé. Si Hervé, c'est ça, allez pas vous pendre surtout. Ce fut l'un des grands films de l'année 1981. Excalibur de John Borman, basé sur la légende du roi Arthur, avec Merlin, le chevalier de la table ronde, la quête du Graal, sacré, tout ça quoi. Un énorme succès porté par la musique de Karl Orff, c'est Carmina Burana qui trouvèrent là une application puissante et exaltée. Voici la fin de ce chef-d'œuvre, version Eugen Jochum, avec en soliste Gundula Janowitz. Petit plaisir supplémentaire. Les dernières mesures des Carmina Burana de Karl Orff Eugen Jochum, le chœur et l'orchestre de l'opéra allemand de Berlin.
Ça y est, j'ai trouvé !
Le petit poussé, c'est fini, on arrête de jouer. Maud a déjà tiré au sort d'ailleurs les gagnants, dont je donnerai leur nom dans quelques instants. Oh, on vous a donné du fil à retordre aujourd'hui, hein. J'aurais dû dire, ils vous ont donné, puisqu'il fallait deviner, les Monty Python, la célèbre troupe de humoristes britanniques. Indice, leur formation à la BBC en 1969, avec Colin Davis et l'orchestre de la BBC jouant Elgar au Proms cette année-là. La danse du serpent de Salomé, de Schmitt, la tragédie de Salomé pour la piste du Python. Les mariés de la Tour Eiffel pour le collectif. Le crucifixus de Rossini pour la crucifixion chantante de la vie de Brian. Le Circus Vals, de Nino Rota pour le Flying Circus des Monty Python, Beethoven pour le sens de la vie, Brazil pour le film de Terry Gilliam, Landowska pour un poisson et non pas un poison nommé Vanda, enfin Karl Orff et Excalibur pour Sacré Graal. Les gagnants du jour, Michel de Dinard, Cécile de Paris, Séverine de Celles-sur-Belle, Isabelle de Neuvillers-les-Savernes et Dominique de Montréal, oui parce qu'on nous écoute et on joue aussi depuis le Canada. Bravo à tous, ah ouais parce qu'aujourd'hui c'était pas évident. Et pour refermer notre jeu, un peu de la BO du film Monty Python Flying Circus.